Donc le travail que nous allons vous présenter n'est pas un travail de recherche, c'est plutôt une étude de cas d'une expérimentation telle que nous l'avons suivie au lycée Jean Perrin à Rosé sur la préparation à la philosophie en classe de première. On a souhaité vous présenter l'accompagnement à cette expérimentation parce qu'elle semble arriver à son terme et qu'elle nous pose la question « Que fait-on pour terminer une expérimentation ?» parce qu'elle a atteint un certain degré de légitimation dans l'établissement où elle a eu lieu, parce qu'elle est assez avancée, qu'on a recueilli assez de regards croisés, d'écrits, de comptes rendus de réunions, pour que la question de la nature finale de son évaluation se pose à nous. En même temps, vous exposer ce cas, c'est faire notre auto-évaluation. Et depuis 2 jours que nous parlons d'évaluation de l'expérimentation, moi j'ai l'impression dans ma tête que ça a déjà beaucoup bougé et que si j'avais à refaire ce travail, je vous le présenterais autrement. On retravaillerait la question certainement avec Christine. Participe à cet atelier Monsieur Faes, qui est proviseur adjoint du lycée Jean Perrin de Rosé et qui a suivi, accompagné avec nous donc cette expérimentation de philosophie en première. Alors, l'historique de l'expérimentation, vous avez eu le loisir de consulter ce tableau historique que nous vous avons fait passer. Alors, est-ce que vous souhaitez encore un peu de temps pour le regarder? Est-ce que ça... Bien. Je voudrais juste préciser une ou deux petites choses pour bien comprendre les enjeux de cette expérimentation. La période que j'ai appelée laboratoire 2004-2005 a déjà en germe ce qui sera la véritable expérimentation de cette équipe-là, qui pour moi est vraiment la philosophie en première, elle. Personne ne le sait à l'époque, enfin je veux dire, ni nous, ni l'équipe, mais déjà les cadres de l'expérimentation sont en place. À savoir que d'un côté, un enseignant expérimente l'utilisation des TIS dans les sections technologiques, là où l'enseignement de la discipline par le verbe et le discours est particulièrement difficile. En même temps, ils imaginent un véritable cours de philosophie en première, mais il n'y a aucun dispositif dans l'établissement qui permette de le réaliser. Et ils instaurent un partenariat avec les rencontres de Sophie. Alors, à Nantes, que sont les rencontres de Sophie? C'est une manifestation de 3 jours autour d'un thème philosophique qui a lieu au lieu unique, donc, et qui accueille, pour la version populaire, 4 à 5 000 personnes à chaque fois. Donc, une association de philosophes définit un thème, et pendant ces journées, ce thème est traité de différentes façons, par des conférences traditionnelles, mais aussi par des jeux pour les enfants, mais aussi par ce qui s'appelle un abécédaire. Et si je vous parle de l'abécédaire, c'est qu'il a été un mode d'inspiration pour l'équipe. L'abécédaire, les rencontres de Sophie cette année-là traitent de la crise, de A à Z, en prenant un mot commençant par chacune des lettres de l'alphabet, un philosophe en 20 minutes doit présenter une question. Sur le sentiment, sur la passion, bien sûr, A sera amour. Sur le bien et le mal, Z sera Zorro. Donc, il me semble qu'il y a là tout un dispositif en place pour que s'installe petit à petit une innovation, puis une expérimentation. Donc, voilà les précisions que je voulais apporter. L'année suivante, quand l'équipe s'est installée dans une innovation, 2005-2006, 2006-2007, je suis en train de chercher la date du projet soumis, c'est fin 2006, c'est ça. On a suivi les principes que nous connaissions habituellement pour évaluer une innovation, à savoir que l'évaluation, c'est finalement pour nous, à la MIVIP, produire un écrit commun. Dans l'accompagnement de l'innovation, on peut dire qu'on entretient une relation privilégiée avec l'équipe. L'établissement facilite les contacts. C'est souvent les chefs d'établissement qui téléphonent parce qu'ils ont repéré et ils veulent valoriser une équipe. Et cet accompagnement est un peu soft. L'équipe de professeurs définit son objet d'innovation. La temporalité de l'accompagnement suit la temporalité de l'expérience. La MIVIP valorise, aide à formaliser. Nous construisons un écrit commun par des allers-retours entre nous et l'équipe. Nous essayons de favoriser l'analyse de la pratique. Nous essayons de transformer tous les écrits dans la pratique, tous les écrits fonctionnels, opérationnels, par un écrit sur la pratique. L'équipe reste maîtresse de son objet de travail, elle en rend compte, nous pouvons conseiller, nous pouvons faire appel à des experts, inspecteurs ou experts de la question, mais pas obligatoirement. Donc l'équipe entretient avec la MIVIP une relation principale. On est dans une relation bipolaire. Et la modalité de l'écrit tient à préserver ce qui fait la spécificité de l'innovation. L'écrit d'une pratique innovante est à la fois exhaustif, c'est-à-dire il relève du rapport, du compte-rendu, avec des objectifs, des modalités. Il est constitué de deux parties, souvent description et analyse évaluative, mais en même temps, c'est une activité langagière où on s'assure que les auteurs restent impliqués dans leur action. C'est un écrit où les auteurs disent « je », c'est un écrit à plusieurs voix, c'est un écrit que l'on veut incarner. Et hier, le proviseur adjoint du lycée Sainte-Marie du Port des Sables-d'Olonne me disait: on a construit un écrit sur l'expérimentation, mais on l'a désincarné. Et je dois dire que moi, ça me pose question sur l'écrit que l'on doit produire sur une expérimentation. Si on fait le point en 2007 sur cette innovation, on a donc un écrit où les professeurs ont à cœur de défendre l'enseignement de la philosophie. C'est un écrit qui est une véritable profession de foi de l'enseignement de la philosophie. On a un projet qui est soumis au CA à la fin 2006 et qui est validé pour qu'on passe à une étape supérieure, à savoir la dotation de 4 heures dans la DAG, de 4 heures hebdomadaires, pour l'enseignement de 1 heure de philosophie en première dans 4 classes, une classe de première L et 3 classes de ES. À ce moment-là, nous proposons, nous, des indicateurs. On a entendu lors des interventions d'hier et d'aujourd'hui l'intérêt d'indicateurs informels, l'intérêt d'indicateurs spécifiques. Et c'est ça qui me fait travailler un petit peu cette question du rendu final. Nous proposons une vidéo. Je pratique un peu d'observation. Je vais voir les élèves au lieu unique écouter les philosophes. Nous proposons d'enregistrer les conférenciers qui viennent au lycée le lundi matin, faire 3 heures de conférence devant les terminales. Et les classes de première, elles, y sont accueillies. J'observe comment les professeurs s'y prennent. Je regarde quelle est l'attitude des élèves. Et puisque les professeurs s'inspirent des rencontres de Sophie pour faire des nouveaux travaux à leurs élèves, nous proposons de filmer les élèves quand ils feront leur abécédaire. C'est un échec pour deux raisons. Nous filmons bien, mais notre vidéaste tombant malade, nous ne pouvons pas monter ce que nous avons filmé. Et puis, finalement, les élèves n'acceptent pas d'être filmés pendant leur abécédaire. En tout cas, dans cet accompagnement, moi, il me semble qu'autour des rencontres de Sophie, il se passe quelque chose et que c'est un petit peu de là que vient l'évolution de l'équipe et de sa recherche. Le fait que, finalement, le projet s'institutionnalise dans un cadre de l'établissement, arrive en même temps l'impulsion de la MIVIP pour rendre compte des expérimentations de l'Académie. Nous proposons donc au chef d'établissement d'inscrire cette innovation dans le cadre de l'expérimentation. La relation, cette fois, pour l'équipe, nous pose une question. On passe d'une relation bipolaire, d'un accompagnement incitatif, valorisant, peut-être à une action multipolaire qu'il faut toujours rendre valorisante, mais qui pose plus de questions sur le bilan final et sur la façon dont on va pouvoir terminer. L'équipe est très sollicitée. Elle accepte d'être suivie par la recherche dans une analyse externe. Enquête qui sera d'ailleurs assez courte et qui concernera un professeur de l'équipe. Nous continuons à essayer d'engranger tous les travaux d'élèves et incitons l'équipe à faire son auto-évaluation. L'IAIPR qui a rencontré l'équipe avec nous aussi et avec les chefs d'établissement prodigue des conseils et des préconisations. Et bien sûr, l'équipe de direction va demander un bilan annuel, enfin monsieur Faez vous corrigerez si je dis là une bêtise, au moins qui serve d'évaluation pour le conseil d'administration. Ce dont on s'est rendu compte avec le passage à l'expérimentation, c'est que nous sommes finalement sollicités beaucoup plus du côté des équipes de direction. Comme si expérimenter nous faisait aussi passer du côté du pilotage de l'établissement. Alors, travailler avec la recherche, Christine s'en est expliqué tout à l'heure. C'est vrai qu'il y avait peut-être de la naïveté de notre part de penser qu'il n'y aurait pas d'enjeu évaluatif dans l'analyse du chercheur. Alors, en fait, ça a été un petit peu à multiples facettes. Demander une analyse sans enjeu évaluatif, c'est vrai que c'était un petit peu illusoire. Au début, on s'est posé la question du partage et de la réécriture. Et là, on ne peut pas réécrire une analyse de chercheur. Donc, en fait, il faut accompagner à la réception, tout simplement. Je crois que les professeurs ont droit de connaître la recherche qui a été faite avec eux. Mais on ne peut pas donner un document de recherche sans un accompagnement à la réception de ce document. Alors, au final, elle a été, cette recherche, éclairante pour nous sur certains points. Elle nous a montré les points de blocage, parce qu'une enquête a été faite auprès des élèves, parce que le chercheur est allé en cours. Mais en même temps, on s'est posé la question de savoir si la recherche reflétait bien ce qu'avait de spécifique cette expérimentation. On avait bien discuté avec le chercheur pour... je lui avais donné les documents écrits des professeurs pour essayer de définir ce qu'on attendait de lui, mais il me semble qu'on n'avait pas tout à fait assez réfléchi sur ces indicateurs propres à la spécificité de l'expérimentation. Et c'est vrai que le chercheur étant resté très peu de temps, et compte tenu que la temporalité qu'une expérimentation se développe, qu'elle sinue, qu'elle tâtonne, peut-être qu'on n'a pas dans le rendu de la recherche tout ce tâtonnement, tous ces repentirs qui existe dans l'expérience et dans la pratique. Alors, je crois que c'est Monsieur le Recteur qui a parlé d'une évaluation partagée. Oui, justement, la question et le débat que l'on vous soumet, c'est à la fin, terminer cette expérimentation-là en proposant une évaluation partagée, qu'est-ce que ça peut être? Au moins, on a noté des indices. Un consensus sur le développement de cette innovation et sur le principe d'une évaluation dès le départ, mais ça c'est quand même à minima ce qu'on peut attendre quand on entre dans une expérimentation. Les professeurs ont procédé au premier trimestre de cette année de terminale à une évaluation par questionnaire auprès de leurs élèves, de L et de ES, qui ont bénéficié l'année dernière de cette préparation à la philosophie en première. 100 questionnaires d'élèves ont été épluchés et peuvent encore finalement servir comme matériaux de recherche d'ailleurs. Il y a eu une évolution des positions de chacun vers des rapports multipolaires. Il semble qu'on a écouté, on a pris en compte les contraintes du pilotage d'établissement, les avis de l'inspection. Sommes-nous allés assez loin dans les implicites, la recherche d'un objet commun, la recherche de critères d'évaluation, peut-être pas. Il y a eu un partage des différents écrits qui ont été produits, très nombreux, très variés. L'objet d'évaluation est multiple, c'est à la fois les professeurs, les élèves, le cadre, l'établissement, la discipline. En même temps, je crois qu'on est d'accord sur une certaine légitimation de l'expérience dans l'établissement. Il y a des élèves de seconde qui attendent de rentrer en première aile pour aller voir la philosophie. Il y en a qui ont demandé à aller assister au cours de philosophie en première alors qu'ils sont en seconde. Et il y a un projet de pérennisation dans l'établissement. Alors, si on devait revenir au début de notre accompagnement, peut-être qu'il faudrait construire un objet commun d'évaluation ou s'en approcher par des points de vue différents. Je dois dire que peut-être par notre habitude à accompagner des innovations, on a focalisé sur l'expérimentation pédagogique, on n'a pas vu qu'on était aussi, comme disait quelqu'un, en expérimentation institutionnelle finalement. Enfin, la question de la méthodologie d'interrogation d'une expérimentation. Entre un cahier des charges, encore que le mot me gêne un petit peu, qui encadre très spécifiquement l'expérimentation, et puis la recherche des fameux indices significatifs de l'expérimentation, il me semble qu'on a eu deux pôles proposés par Lyon et par Paris, et qu'on a peut-être à construire entre ces deux pôles quelque chose qui soit adapté à l'expérimentation qu'on accompagne. Parce que finalement, au bout du compte, on a quoi? On a l'évaluation, c'est un objet protéiforme. On a des modalités différentes, on a des documents de nature différentes. Il faudrait peut-être, pour rendre compte de façon vivante de cette expérimentation, de retrouver un fil depuis le début et de le suivre jusqu'à la fin. Et quand je disais qu'il y avait à voir du côté des rencontres de Sophie et du côté de l'utilisation des TIS, s'il y a une production d'élèves que j'attends avec impatience, c'est la controverse de Valladolid, construite par des élèves et filmée par les élèves. Voilà. Voilà. Monsieur Foss, je vous laisse ajouter quelque chose du point de vue de l'établissement.
Du point de vue de l'établissement qui a l'air en constant aussi ce que j'ai pu entendre hier. C'est-à-dire que je reviens un peu à ce que vous avez dit, notamment quand vous avez souligné, mais très juste, qu'à un moment, les relations ont été bipolaires entre les enseignants et les joueurs. C'est vrai que la question pour moi, finalement, aujourd'hui, c'est qu'on. L'impression est quand même surtout sur un projet disciplinaire. Et du coup, le questionnement que j'ai par rapport à l'établissement, c'est effectivement la place de cette expérimentation dans l'établissement et par rapport aux objectifs de l'établissement. C'est vrai qu'honnêtement, correspond à la question entre le projet qui est en place à l'origine. Bon. C'était la première année où M. Schenker et moi-même étions dans l'établissement, ce n'était pas une priorité claire de l'établissement que ce projet soit la philosophie. Et c'est peu à peu, finalement, qu'on a commencé à s'intéresser à son contenu et à avoir des échanges avec vous. Effectivement, il y a un moment, peut-être on a été plus demandeurs envers vous, aussi d'éléments d'évaluation d'un projet donc, qui vivait sa vie, qui était parti, s'il a été validé, bon, il a été validé pour son intérêt pédagogique, hein, mais pas tellement finalement dans son intérêt par rapport aux objectifs prioritaires de l'établissement. Ça a évolué en cours d'année, c'était un élément d'évolution du projet, notamment avec mon contrat d'arrêt le contrat d'objectif l'année dernière, le médaille sur mon corps régional, on a retrouvé la valorisation des filières littéraires, hein, et ES, du coup, effectivement, c'est devenu aussi un autre élément. Mais forcément, après, on s'interroge en termes d'indicateurs, d'évaluation du projet. Et finalement, au bout du compte, bon, l'évaluation est très, très seul ressenti. Hein, pas difficile d'avoir d'autres éléments d'indicateurs. Mais j'entends que les professeurs ont cherché aussi à justifier finalement leur discipline. Mm. En cherchant à l'extérieur, notamment dans leur compte de philosophie. Philosophie en acte, hein, c'est de valider un peu leur discipline. Alors, effectivement, il y a des effets positifs auprès des élèves, ils sont plus dans le jeu disciplinaire. Et après, le tout, aussi, il faut dire aussi derrière, il y a ce qui est lié aux conditions de l'établissement. Alors, c'est vrai qu'à l'origine, on a tout de suite déconnecté le projet des moyens. En même temps, il faut le faire aussi. Il y avait un souci de 2 ou 3 heures, qui était un élément déclenchant au départ. Et effectivement, si on avait voulu au départ dire que ce n'était pas lié à cette situation-là, ça pouvait tomber chez ça, et c'est quand même une réalité des parcs qu'il faut regarder. Et bon, après, LES, bon, après, c'était validé par contre un objectif, mais la relation des filières LES, mais au bout du compte, on voit que le projet, personne n'y a plus positif pour les L, effectivement, il y a un enjeu. Et du coup, c'est une mesure effectivement terminale, l'avantage. Donc, un bilan peut-être aussi, pas pour moi, que je pense positif, hein, qui n'était peut-être pas attendu au départ, c'est que finalement, ce qu'on disent les professeurs, c'est que la confrontation aux élèves de l'ES en particulier, qui était beaucoup moins portée à ce type de la philosophie, donc ils ont arrivé à revoir leur philosophie, et du coup à réutiliser finalement en termes de la technologie, des choses qu'ils ont fait là. Parce que effectivement, on a trouvé derrière un intérêt pour l'établissement, mais qui n'était pas finalement le projet d'État.
Non.
Donc voilà. Donc moi j'ai l'impression d'avoir finalement vu un projet qui est parti parce qu'on y a vu un intérêt philosophique, sans forcément poser d'anglais, je dirais, dans toutes les démarches de constat, d'objectifs, ni du coup les instruments d'évaluation, et d'avoir vu quelque chose qui a évolué de manière assez forte au cours des 4 années.
Moi j'ai vu l'équipe de professeurs évoluer, il y a un changement de paradigme, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que leur profession de foi philosophique au début, c'était la philosophie, rien que la philosophie et pas autre chose. D'accord, on les sortait pour que voir ce qu'ils appelaient la philosophie en acte, hein, comment est-ce qu'elle a une réalité. Un philosophe, c'est pas quelqu'un d'abstrait. On peut faire de la philosophie avec les enfants, on peut faire cinéma et philosophie, mais on allait bien à l'extérieur où ça se passait sur une demi-journée. Mais quand même, ça avait l'air un peu séparé. Et puis petit à petit, on avait une contamination, une réflexion sur comment faire d'autres travaux avec les élèves autour de cette classe de première et qui diffuse maintenant vers la classe de terminale. Donc voilà. Mais au départ, on ne pouvait pas dire que c'était une expérimentation, d'autant plus que les premières raisons de 2004, c'était un TZR en sous-service, c'était bien d'occuper. Voilà.
Alors moi, je vais vous donner un point de vue un petit peu plus distancié que celui de Martine, qui a suivi cette innovation et ce passage de l'innovation à l'expérimentation depuis le début. Moi, je l'ai laissé faire parce qu'elle le faisait extrêmement bien. On en discutait toutes les deux régulièrement. Enfin, je suis plus en distance par rapport à cette expérimentation. Alors, peut-être quelques points que je voudrais soulever. c'est pour ça qu'on l'a présenté en cas d'école. Je trouve que c'est quand même un vrai cas d'école pour moi du passage de l'innovation à l'expérimentation. Parce que M. Faez parle donc de d'effets inattendus. On a beaucoup réfléchi dans les innovations sur ce que l'on appelait, nous, les inédits, les effets inédits. Et c'est ça qui nous paraît le plus riche. Parce qu'effectivement, en innovation, l'innovation n'est pas projet. Et souvent, on fait la distinction. Justement, l'innovation, c'est quand surgit l'inédit. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça que l'on cherche à faire émerger. Alors, comment ça émerge? Ça émerge, si je cite Martine, c'est que Martine a une attention toute particulière à la philosophie par son histoire personnelle. Je suis persuadée que je n'aurais pas réussi, moi, à développer. On est des développeurs, on le dit depuis hier, à développer cette expérimentation comme elle a pu le faire. Donc il faut des gens qui soient complètement, c'est cet ami critique, attentif, parce que quelque part, c'est un enjeu aussi pour lui que de développer. On co-développe. Et voilà, donc c'est un exemple peut-être d'une opportunité, parce qu'il y avait un sous-service au départ, qui est saisi et puis qui à un moment rencontre l'intérêt de développeurs. Hier, on a parlé d'effet boule de neige. Voilà, et à un moment, il y a une boule de neige un peu vertueuse qui fait qu'il se passe quelque chose. Et puis à un moment, on a aussi parlé de cristallisation. Ben oui, il y a eu cet article 34. Alors là, c'est peut-être moi un moment qui ai dû dire « Oh là là, le ministère nous demande des expérimentations. » Là, quand même, on a quelque chose. C'est un potentiel. Oui, mais ce n'est pas encore mûr. Donc on va le mettre en pépinière d'expérimentation. Mais quand même, on va le suivre. Voilà. Et puis effectivement, les contraintes d'objectifs arrivent. Et c'est là qu'on voit toute cette imbrication entre les aspects institutionnels, le fait qu'on avait mis, nous, dans les expérimentations, l'axe développement des séries littéraires, et que c'est vrai que la philosophie dans les séries littéraires joue un rôle très très important. Donc voilà, tout ça, c'est des mini-événements, mais qui sont, qui, lorsqu'on les regarde a posteriori, constituent vraiment des éléments de construction de l'expérimentation. Et c'est ça qui fait que c'est extrêmement délicat, parce que cette expérimentation qui s'est développée au lycée Jean Perrin ne peut pas être transposable en l'état ailleurs. Donc là, j'écoute bien tout ce que l'on nous dit, tout ce que l'on a dit sur la généralisation. On réfléchit souvent sur qu'est-ce que c'est qui est transposable, quels sont les micros, ces objets qu'on pourrait transposer en changeant d'échelle. La chose n'est pas simple. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me dis que les récits, le récit dont on a parlé, ce récit incarné, cette sorte un peu parfois de récits épiques, comme on peut dire, hein, parce que les équipes, quand elles parlent de leur travail, ont souvent des façons de le dire qui sont vraiment fortes. Ces récits-là peuvent parler à d'autres collègues. Et là, je pense qu'il y a une transposition possible, parce que quelque part, on parle de discipline à discipline, on parle de cœur à cœur. Donc là, la transposition, elle me paraît, ce type de récit me paraît être un facteur de développement d'équipe à équipe, sur un plan transversal. Maintenant, pour passer à un changement d'échelle, c'est-à-dire faire que cette expérimentation puisse être utile à l'inspection générale, au ministère, là, ça n'est pas plus ce récit épique, ce récit incarné, mais effectivement, il faut trouver des épures successives pour un peu conceptualiser qu'est-ce que ça pourrait être cette philosophie en classe de première. Et à ce moment-là, peut-être que là, on peut transposer à un niveau supérieur. Mais voilà, c'est l'état de ma réflexion aujourd'hui, et ces deux jours, moi, m'ont fait beaucoup avancer là-dessus. Il y a des types d'écrits et on ne transpose pas verticalement et horizontalement avec les mêmes outils. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, voilà. Maintenant, à vous.
Oui, je vais intervenir plus sur du ressenti. Hein. Hier, on a insisté, enfin moi j'ai ressenti comme ça, parce que je trouve ça très important, c'est sur la nécessité d'échanger et de réunir en fait l'ensemble des personnes qui peuvent être concernées par le projet. Et je me demande s'il n'y a pas une période d'interrogation ou de flottement au passage, alors là les termes, c'est toujours pareil, je vais dire ça, au passage de ce qui était de l'ordre un peu d'une tentative d'innovation, à la phase de plus d'expérimentation. C'est-à-dire au moment où, d'un côté, l'équipe de direction s'est rendue compte qu'effectivement, il y avait l'innovation pédagogique qui perdurait, donc, mais sans, sans avoir forcément de retour, que je pense était effectivement. Comment était organisé, donc un questionnement, ne serait-ce que peut-être aussi avoir des choses à remonter, à faire connaître, notamment pendant, au conseil d'administration, est-ce qu'on était capable de dire ce qui se passait vraiment, quelles étaient par rapport aux attendus, les réponses données, des choses comme ça. Et d'un autre côté, le sentiment de l'équipe vraiment impliquée dans l'expérimentation, qu'est-ce que vient faire l'équipe de la direction en nous questionnant. Est-ce qu'on les gêne dans le pilotage de l'établissement? Est-ce qu'on a une forme de pouvoir par rapport à l'équipe de direction? Comment se fait-il qu'ils viennent s'interroger sur l'existence réelle de ce projet qui en fait est parti d'une envie et de la possibilité, pourquoi pas au niveau de l'équipe de direction parce qu'on a les moyens? C'est un peu ressenti ça là sur le témoignage. Est-ce que...
Je pense qu'au départ, il y a une envie réelle de l'équipe, mais bon, le projet il a été validé parce que pédagogiquement, il se tenait, il y avait un intérêt. Après, l'envie réelle a permis aussi au projet de résister malgré les élèves de l'équipe. Parce qu'on est parti avec 4 professeurs, il y a même 2 professeurs dans un projet de formation.
Oui.
Bon, il n'y en a plus 3, donc malgré tout ça, gérer le projet actuel, parce qu'en fait, il a bien reposé sur la motivation. Après, sur la transposition, pour prendre votre question, donc, je me demande qu'est-ce qui fait que le projet n'est pas transposable aujourd'hui. Finalement, et ça renvoie peut-être pour moi effectivement à la réflexion sur ce qui se passe en classe de première. Mais encore davantage, il n'y a pas de programme. Donc, effectivement, les professeurs n'ont pas fait d'évaluation chiffrée, donc une évaluation littérale. Et je me dis que peut-être ce qui manque pour rendre le projet transposable, on va savoir qu'on vient en L. Première question, j'ai dit. Est-ce que si le projet devait être transposé, est-ce que c'est toutes les classes de première. Ou les classes de première L. On va tout de suite compter en termes de moyens, donc je ne sais pas, c'est pas la même chose. Et je pense qu'implicitement, dans l'esprit des professeurs, je crois qu'il y avait sans doute beaucoup plus la question effectivement de l'enjeu pour les L que pour les autres. Mm. Et cette idée effectivement de les préparer dès la première. Et je me dis que si on voulait aller plus loin, c'est peut-être du coup. Sur le travail, effectivement, on a vraiment dans ces mots de philosophie, des concepts avec la première, et du lien avec la terminale qui pourrait être quand même. Du coup, d'ailleurs, pourquoi après, là, je réfléchis en parlant, hein, j'ai mis mon moment de rajouter des heures en première, j'ai un autre projet, ça pourrait être, je sais pas, une étude dans le domaine terminal, une étude dans la première. Mais ça suppose effectivement qu'on rentre beaucoup plus dans la continuité de l'apprentissage de la philosophie, de la première.
C'est ce que le chercheur avait soulevé, je crois. Ce passage de la première à la terminale, cette continuité.
C'est vrai,
mais elle était vue du côté de garder le même professeur, ce débat.
Oui, justement, du coup, je trouve qu'il y a vraiment aussi un point d'entrée très différent.
Oui.
Et donc, qui, à mon avis, est aussi une difficulté de son travail, c'est qu'il avait peut-être ses propres critères, qui étaient en décalage avec ceux de l'expérimentation, qui même n'étaient pas très clairs. Donc, toutes les choses ont bougé de manière continue, pardon. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la présentation de la leçon telle que nous a été présentée hier. Maintenant, ça montre aussi finalement, et c'est assez amusant, qu'un projet qui au départ n'a pas respecté toutes les étapes préalables de la formalisation et l'identification des problèmes objectifs, au bout du compte, a quand même des effets positifs.
Mais ce passage-là qui on s'est réunis, monsieur, on s'est réunis, il y a eu des réunions, etc. Mais il y a eu des réunions, il y a eu des échanges entre tous les partis. Mais je crois qu'on n'a pas réussi à conceptualiser ces objets communs, au moins. Et on n'a même pas discuté un jour sur qu'est-ce que c'est qu'expérimenter. Et peut-être qu'en philosophie, l'inspection n'est peut-être pas très à l'aise non plus en ce moment. Parce que il y a à la fois la volonté de défendre la corporation des professeurs de philosophie qui est peut-être un peu en danger parce qu'au niveau européen c'est quand même la France c'est une spécificité française. Et puis en même temps, que faut-il faire? Moi j'ai eu un moment l'impression que il y avait un débat de fond qui était un débat épistémologique de la philosophie qui nous dépassait entre les professeurs ce qu'ils voulaient faire sur le terrain et l'inspection. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire, là, nous?
Je crois qu'effectivement, cette image est tout à fait caractéristique des enjeux qui se sont passés à deux moments. Il y a eu un moment, vous n'étiez pas là, M. Faes, j'en ai parlé ce matin, c'est-à-dire la discussion avec le chercheur et l'inspecteur, et nous. Sur finalement quel va être l'objet de la recherche. Et moi depuis le début j'essaie de trouver des objets communs et on n'a pas réussi. Aujourd'hui je le cherche toujours cet objet commun. Je me demande, je vais être comme Tintin, quel est-il cet objet? Peut-être qu'il est imaginaire et qu'il n'existe pas et qu'on est en train de quêter le Graal alors qu'il n'y est pas. Mais ce moment-là est un moment clé et on l'a vu, c'est allé très vite entre l'inspecteur. Je regrette beaucoup que M. Elie ne soit pas là, il a été invité, il nous avait dit qu'il viendrait. Malheureusement, il doit être pris ailleurs, mais son point de vue nous aurait été très très précieux parce que entre lui et le chercheur, moi j'ai de l'extérieur senti bien sûr une connivence philosophique. Et donc le rapport de recherche, ce qu'a cherché le chercheur, Martine l'a bien dit, ne correspondait pas nous à notre objet expérimental, n'intégrait pas les rencontres de Sophie. Mais je me dis que Monsieur Elie, peut-être que lui aussi, son enjeu, c'était les programmes philosophiques. Il nous a parlé effectivement de changement changement de programme, de vision de la philosophie en lycée. Donc lui, il était là-dessus, sur la philosophie en lycée. Et il y a eu donc une deuxième réunion clé dans votre établissement, où là, il y avait Monsieur Elie et l'équipe pédagogique, et là les préconisations, les conseils de Monsieur Elie semblaient aller un petit peu à l'encontre de ce que souhaitaient faire réellement les enseignants. Et là les enseignants ne l'ont pas dit, mais ont sorti le carton de l'autonomie pédagogique. Mais c'est nous qui sommes les garants de l'autonomie pédagogique, ça on l'a très bien senti. Et la conclusion de tout cela, c'est que la réception effectivement du rapport de recherche a été difficile pour les enseignants. Les a sûrement déstabilisés. D'ailleurs, il y a une d'entre elles nous a dit qu'elle ne l'avait pas lu. Je n'y crois pas du tout. Mais elle nous a dit qu'elle ne l'avait pas lu. À mon avis, elle a dû s'y précipiter. Mais voilà, ça veut dire que c'était nié. Mais ça les a confortés dans ce qu'ils faisaient. Et ils nous ont dit, mais nous, maintenant, on sait quelque part que ce qu'on fait, c'est bien et c'est bon pour les élèves. J'ai envie de dire, malgré la recherche et peut-être malgré l'inspection. C'est un peu ça la conclusion. Quand un enseignant vous dit, moi, je sais que c'est bon pour mes élèves, c'est qu'il a raison. Voilà. Mais tout le reste, tous les conseils, tous, je crois qu'on avait tous raison. C'est ça qui est fou. Dans notre logique, on a tous raison. Et ce qu'il faut, c'est qu'on réussisse à s'écouter. Même si à un moment, c'est déstabilisant. Je sais que Martine, il y a eu des moments, elle m'a dit, mais ça y est. D'ailleurs, l'équipe nous a dit au revoir. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Je crois qu'ils en avaient marre de nous voir. Ils en avaient marre. Ils disent, écoutez, on s'est engagé sur un suivi de 3 ans avec vous, mais basta, c'est terminé. Laissez-nous tranquille. Hein? Voilà.
Et encore, sans vouloir rabattre les débats, moi je crois qu'au niveau, enfin à notre niveau, chef d'établissement ou établissement, on touche le fond du problème. D'abord, dans le constat, souvent et peut-être de plus en plus, on a des enseignants qui ont envie de faire différemment, pour différentes raisons. À partir justement de l'analyse, est-ce que ça va être de l'innovation, est-ce que ça va être de l'expérimentation? Le problème n'est pas là au départ. On a envie de faire différemment. Or, en parlant concrètement, on se sent très très rarement soutenu dans cette envie-là. Sans aller sur des problèmes de personnes, mais c'est vrai que, bon, avec la masse de travail, notamment, les inspecteurs, ils ont généralement pas beaucoup de temps consacré justement à valoriser ces envies-là et à les mettre en avant. Ça, c'est certainement vrai. Mais au niveau des enseignants, on a rarement un signe positif, un signe encourageant pour essayer de faire différemment. On en discutait à la pause café. De notre côté, on fait beaucoup, beaucoup plus d'efforts à rentrer dans le moule, à essayer de caler tout pour pouvoir être dans le moule, c'est-à-dire même la répartition de la DGH, savoir si on va avoir suffisamment d'heures pour faire fonctionner la structure, et le peu de temps qu'il nous reste, c'est-à-dire on plaisantait tout à l'heure, bon, en disant, bon, à partir de 19h à 7h du matin, on a la possibilité de prendre du recul et puis de voir, de faire une analyse sur une pratique, sur l'établissement, et voir un peu ce qui pourrait être intéressant à faire. Et ça, je crois que c'est vraiment la difficulté. Moi, je prends vraiment une bulle d'oxygène là, sur ces deux jours-là. Ça fait énormément de bien. Mais par contre, après, bon, voilà. C'est encore du ressenti. Hein.
Mais c'est très important. Vous avez, le nombre de vos collègues que l'on avait invités à cette réunion et le nombre d'inspecteurs nous ont dit que ça nous passionnerait. J'espère que vous allez faire des actes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être là.
Oui, à vous entendre, quand vous disiez qu'on n'a pas trouvé d'objet d'expérimentation, je me posais la question, est-ce que les éléments positifs qui sortent quand même de ce projet ne pourraient pas être considérés? Par exemple, le fait que les secondes demandent à avoir des cours de philosophie, à venir y assister, enfin moi, en tant que philosophe, je trouve ça super déjà. Le fait que les élèves fassent de la philosophie à l'extérieur de l'école, et ne rechigne pas à faire de la philosophie, qui est quand même une matière où il faut réfléchir, où il faut remettre en question tout ce qui est proposé, analyser, etc. Et je me posais aussi la question, est-ce qu'on a évalué les résultats en terminale? Par exemple, les résultats au bac, on a le bac. Est-ce qu'on a vu s'il y avait un impact sur les résultats des élèves?
Ce sera la première année, là.
C'est la première année, oui, 2004-2005.
Et dans les choix, peut-être dans les vœux au sortir de la seconde, est-ce que ça joue?
C'est pour moi très difficilement évaluable de ce point de vue-là, à mesure où la deuxième R, on a eu la chaîne, on a eu l'année dernière, en R et en ES, les difficultés de ce point de vue-là. Le constat d'établissement, c'est que les résultats de baccalauréat sont variables.
Oui.
Voilà, en R et en ES. Bon. En plus, on reste après l'analyser et dire pourquoi.
Non, justement, ça peut être l'objet des préinscriptions, mais c'est
pas. Oui, mais bon, tellement d'éléments qui viennent par l'extérieur. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas, mais je me suis posé si le choix des élèves de l'aide n'était pas lié davantage au professeur de Moussa qui est en seconde que d'autres éléments. Il y a tellement de critères qui viennent déterminer le choix littéraire et après d'aller vers l'auteur de baccalauréat que aller évaluer dans ce cadre-là l'impact de cette expérimentation, c'est pas une gageure. Alors après, c'est la question de l'effectivité. Si vous dites sur l'aspect positif,
oui.
Mais quand on souligne l'aspect positif de travailler avec un groupe de Sophie, qu'est-ce qu'on met dans une relation, une expérimentation, une pratique pédagogique, comme sortie scolaire, c'est compliqué après, à dire que le statut finalement de ce travail. C'était vous qui avez mis...
C'était de l'observation.
Oui, c'était vous qui avez plus mis, je dirais, le projecteur dessus, parce qu'il y avait pour moi un enjeu sur l'enseignement de la philosophie, que pour nous, à l'échelle de l'établissement. Par exemple. Effectivement, autant il y a les points positifs, je les vois. Après, on n'était pas tous sur le même objet, finalement, le même regard aussi.
Oui, je crois que vous vouliez poser une question. Voilà.
Oui, alors je vais revenir à un peut-être un peu plus basique. J'ai choisi cet atelier, c'était ce qui m'intéressait, mais c'était le passage de l'innovation à l'expérimentation et la place de l'évaluation dans ce passage. À quel moment est-ce qu'on peut basculer une innovation vers une expérimentation? Est-ce qu'il y a des indicateurs obligés du passage de l'innovation vers l'expérimentation et comment ça se fait? Voilà. Et c'est ce qui m'intéressait parce que nous, dans notre académie, on se pose la question, justement, en fin d'année, de basculer des innovations vers des expérimentations. Donc, c'est ce qui m'intéressait dans le processus là, de l'étude de cas.
Je crois que là, dans notre académie, la réponse est très simple. Une expérimentation dans notre académie, et ça a été défini par l'ancien le secrétaire général président, c'est une innovation dérogatoire. Voilà. Donc nous, c'est notre ligne de partage, on ne se pose même pas la question. S'il y a une dérogation, et là il y avait une dérogation, puisque c'est un enseignement en première, ça tombe donc dans le domaine des expérimentations. Alors après, on a des niveaux d'expérimentation. On a des pépinières, et lorsqu'on est en niveau 1, on est présenté au niveau national, et donc pour être présenté au niveau national, comme on ne veut absolument pas mettre les équipes en risque, en prise de risque, ça c'est vraiment notre déontologie propre, on les arme. On les arme et c'est là qu'on cherche. Et j'insiste, des objets communs d'évaluation, parce que moi, mon angoisse, c'est que le haut comité à l'évaluation ou un inspecteur général vienne voir quelque chose qu'on n'a pas travaillé. C'est-à-dire, voilà, nous, l'équipe, avec le chef d'établissement, c'est ça qu'on veut vous montrer. Et les autres vont pouvoir regarder là et dire c'est nul. Mais non, mais regardez ça comme c'est beau. C'est ça l'objet commun. Et moi, s'il y a une équipe qui vient du niveau national, et la DGESCO nous a dit on viendra, moi c'est ça que je veux leur montrer. Je veux qu'on soit bien d'accord. Et c'est pour ça qu'il nous faut un objet commun. Alors, il faut un objet commun pour l'équipe, certes, mais surtout, nous, c'est en termes de protection. Parce qu'on a vu des équipes prendre des risques. Et moi, alors là, j'en serais malade, hein, de voir une équipe descendue en disant ce que vous faites, c'est pas bon. Alors, on est enseignant. On sait ce que c'est. Donc voilà comment on détermine l'innovation chez nous et l'expérimentation. Vous avez vu, c'est pas du tout la même chose ailleurs. Et voilà comment on détermine nos niveaux. Monsieur.
C'est vrai qu'entre innovation et expérimentation, on voit aujourd'hui qu'il y a des visions très, 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 très différentes. Et l'édition qu'a prise Michel Favari, elle est institutionnelle.
Elle est institutionnelle,
c'est article 34. Voilà. Quand on dit la mesure dérogatoire, on est dans l'expérimentation au sens article 34.
Moi, je termine l'éducation.
C'est
le changement de l'enseignement.
Oui. Changement, enchaînement.
Nouvel enseignement, oui.
Enseignement interdisciplinaire serré, c'est-à-dire rapprochement d'options en technologie, organisation différente du temps scolaire.
Ah, déjà.
Ah oui. On la considère comme étant, changement de la séquence de 55 minutes à 45. Alors, est-ce que c'est d'autonomie d'établissement certains chez nous, alors c'est un exemple très intéressant. Il y a certains établissements qui ne se posent même pas la question, qui ont passé à 45 minutes sans se dire qu'ils étaient expérimentaires. On s'est rencontrés sur le plan d'une innovation, et puis c'est après coup, on s'est dit, finalement, quand même, c'est dérogatoire. Donc là, les cicardiens sont en train de passer en expérimental. Mais on a des tas d'établissements qui ont fait ce changement
sans que ça pose problème. Et il y en a d'autres, à la limite, à qui on l'a interdit. Là aussi, le passage entre l'autorité académique et l'autonomie d'établissement, il se travaille aujourd'hui. On est en travail par rapport à ça. Comme sur les définitions, on est en travail sur beaucoup de domaines.
J'essaie de réfléchir à la problématique de l'atelier, la dernière, le devenir de l'expérimentation et sa diffusion. Bon. Ce n'est pas indépendant d'ailleurs de la réflexion sur l'innovation et l'expérimentation. J'ai l'impression de rester peut-être là-dessus dans ta volonté, je repartirai ce soir.
Oui.
C'est une expression de Jacquard qui est la science de nuit et la science de jour. Je ne sais pas si vous avez dans la souris, la mouche et l'homme. La science de nuit, c'est le chercheur qui bidouille dans son coin, qui essaye des trucs, sans se savoir pourquoi, tiens, ça va marcher. Mais on fait ça bien quand même, parce que quand on veut tester, il faut qu'on sache exactement ce qu'on a fait dans la science de nuit. Puis après, on le formalise, et la science de jour, c'est la publication, où là, tout est net, tout est propre, on se dit, ce type est génial, il est capable, en 4 pages, de produire un résultat qui correspond en fait à 6 mois de travail, avec des errances, des essais et des erreurs. J'ai un petit peu l'impression que, si on essaie de ne pas mettre les mots innovation, expérimentation, désaccolé, on commence par la science de nuit. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une idée d'une équipe, qui est une sorte de cocktail entre des besoins, qui tient quand même la section L, moi je suis tellement au lycée Jean Perrin. Et puis, si elle, on a une idée, c'est d'opportunisme. Alors, de l'opportunisme pédagogique, c'est les journées de Sophie. De l'opportunisme matériel, c'est tiens, mais justement, cette année, on a des élèves qui ne font rien, qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, c'est une sorte d'abord de cocktail détonnant. On a tout sur la paillasse, puis on se dit maintenant, si je mets tout ça ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Alors, progressivement, tout ça s'organise parce qu'on réfléchit. Il y a éventuellement des interventions extérieures qui sont aussi des éléments de modification opportuniste. Je pense à l'article 34. Tiens, après tout, l'année prochaine, on n'aura pas le PZDA, mais si on rendait la demande un petit peu plus officielle, puis on va faire un contrat d'objectif. C'est curieux. Et là, on est, avec le contrat d'objectif et la FIRL, on est dans une curieuse rencontre où c'est un établissement qui s'empare d'un projet national et. Honnêtement, on peut des fois se demander si c'est le rôle d'un établissement de mettre dans ses objectifs de valoriser une filière. C'est-à-dire d'offrir la filière à ses élèves si le besoin existe localement, oui, de leur permettre d'y aller, mais par contre de s'emparer d'un objectif national qui est la valorisation de la filière L, c'est assez curieux de réclamer à la fois l'autonomie et de dire je mets le doigt sur la ligne des pantalons pour aller vers l'objectif général. Alors, le paradoxe, enfin, je ne sais pas, essayer de dire un peu les paradoxes, c'est que ce paradoxe est peut-être aussi celui qui crée la condition d'une nouvelle problématique, c'est-à-dire qu'alors qu'on est parti de quelque chose de local, en disant, tiens, si on se faisait ça, on dit, mais après tout, comme c'est un objectif national, si on essayait de contribuer à atteindre un objectif national par notre travail, et à partir de ce moment-là, c'est la cliente aussi les extérieurs, et on organise un petit peu la science de nuit en science de jour, de façon à ce que justement elle puisse être communiquée et transmise. Alors, on affine les objets, les méthodes, on affine le projet, on ne passe plus que vers elle, on observe quand même ce qui se passe. C'est ça le chercheur dans sa science de nuit. On se dit, tiens, il s'est passé ce machin-là, je ne m'y attendais pas. Là, c'est. Et si on essayait en terminale de modifier la pédagogie de cette façon-là, puisque ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Et puis après, précisément, on arrive à se dire, ce salaire de marché, oui, enfin, je me trompe ou pas, quoi. Et c'est là qu'on en arrive à définir les objets qu'on va évaluer, à définir une grandeur, et essayer de trouver un outil d'évaluation, bon, avec hélas cette contrainte de temps, aussi de temporalité, qui fait que les outils de mesure que l'on peut mettre au point, on va aussi avec l'UIC, hein, si on veut vraiment aller au fond de la démarche, au fond de ces hypothèses, puisque là maintenant on est dans l'hypothèse, on est dans une démarche quasiment scientifique, je fais l'hypothèse qu'en introduisant en première règle, je vais augmenter l'orientation des élèves vers elle et une orientation favorable, hein, de augmenter leur performance au niveau du bac, c'est-à-dire que l'enseignement va être meilleur, 2, 3, c'est-à-dire de nouvelles méthodes de travail, avec une continuité entre la première et la terminale, qui leur permet d'avoir un enseignement philosophique plus efficace. Bon, donc on a tous ces effets-là qu'on peut espérer effectivement mesurer. Alors finalement, quand on regarde ça, qu'est-ce qui est généralisable? Quand on pense aux élèves, est-ce que c'est la façon... je pense qu'il y a deux choses à regarder, c'est à la fois l'effet sur les élèves et l'analyse de la procédure. Alors, sur les élèves, on a finalement, sur la filière L, bon, regardez l'aspect motivation, regardez l'aspect efficacité, et si ça marche, ça veut dire qu'on peut passer à l'étape, si ça ne marche pas, parce que c'est même pas la peine de regarder la procédure. Bon, ça n'a pas marché chez nous, ça marcherait peut-être chez quelqu'un d'autre, mais on ne va pas transférer. Quoique, en recherche, on a un copain chercheur, oui, oui. Il est toujours une expérience qui ne marche pas, oui. Est beaucoup plus intéressante qu'une expérience entre guillemets qui marche.
Je ne sais pas si on l'entend.
En face de ça, on va dire en tant que compagnon. Parce qu'au moins quelque chose qui ne marche pas, quand on modifie un paramètre et qu'on modifie le résultat, on sait pourquoi on agit. Que quand une manipulation marche, on ne sait pas pourquoi elle a marché. Comme étant des complexes. Mais disons qu'on est quand même dans un système où on ne va pas pousser là non plus le paradoxe jusqu'à visualiser des échecs pour croire que c'est peut-être ça une erreur. Sauf si on a identifié la cause de l'échec. De façon à ce qu'elle puisse se servir aux autres. Donc, globalement, dans le système, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est quelque chose entre guillemets fonctionne, donne un résultat attendu. C'est là qu'on va regarder la procédure, en se demandant qu'est-ce qui est transférable. Le comment on fait exactement, il est évident qu'on en est parti d'un certain opportunisme, le détail n'est pas transférable. Donc à la limite, la seule chose qui n'est pas transférable, c'est l'idée. C'est l'idée de commencer un premier rêve, c'est l'idée de commencer un premier rêve totalement libéré de programme, c'est-à-dire de mettre au point des démarches pédagogiques qui conviennent à l'équipe, qui soient en adéquation avec l'esprit d'établissement, et qui puissent éventuellement, si ça marche bien, être introduite tout en restant convaincu que le programme est de l'équipe du bac une année suivante. Et puis voilà, c'est peut-être ça qui est transférable. C'est l'idée. Et après, maintenant, voilà en plus peut-être dans le détail que l'on a fait, on parle de ça et voyez comment vous pouvez peut-être faire quelque chose. Ben, je vois qu'on va faire un petit peu ce qui émerge de ces deux jours, surtout de l'exemple que vous venez de nous.
Quelle pérennisation? Est-ce qu'il y a pérennisation?
L'année prochaine, ce qu'on envisage pour le moment, c'est la candidature sur le professeur de philo en conseil pédagogique, en conseil d'administration. Mais ce qu'on envisagerait, c'est de passer 2 heures en première année, la rentrée prochaine, et de voir après pour les autres élèves, là, le projet encore défini, peut-être une action philosophique, mais on veut éviter l'écueil de le rendre facultatif. Hein, peut-être quelque chose qui soit obligatoire pour 15 élèves, c'est définir, mais peut-être une plaque plus courte. Un projet qui s'est concentré sur une semaine, une plaque de philosophie à d'autres élèves, mais bon, là, le projet n'est pas encore complètement mieux défini. Mais sur la pérennisation du cours de philosophie en première, on irait vers une classe de première heure à 2 heures par semaine.
Est-ce que vous avez pensé à étendre vos classes de terminale de S, au FIRS, pour partir par exemple dans un domaine de l'épistémologie? Qui est un domaine de l'histoire des sciences, qui était là, c'est un domaine qui était à la fois un peu carencé dans notre fonctionnement, qui pourrait à la fois voir la philosophie, ça, parce que c'est
plus de. C'est une aussi formulée par les élèves de S. Bon, après, c'est ces croisements, justement, aussi, mais je ne sais pas, dans le choix des classes. Hein. Le S, bon, il y aura un choix d'établissement clair, mais là, c'est des filières que vous avez dit. Donc, on ne parle pas de S. Après, il y a aussi tout simplement la faisabilité. Hein. On avait 3 classes de première ES et 5 classes de première S.
J'ai pas la question à remettre.
C'est 2 éléments qui se croisent. Justement, dans la pérennisation du projet, on n'a pas défini à qui ça resterait pour mettre en place à côté. Ça pourrait être aussi les élèves de S. Là, le projet n'est pas complètement défini. On ne pourra pas sans doute le faire à destination des, je sais pas, 250 élèves de classe, mais ça nous fait masse aussi. Lycée avec les 13 classes de première, donc on en mettait un pour les L, de manière en mettant pour d'autres élèves, et là on est en cours de réflexion.
Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'effectivement, quelque part, il est bouclé autour de la première L, enfin, c'est le cœur de l'expérimentation, et puis pour les autres, effectivement, en forme d'atelier, quelque chose de beaucoup plus souple, ça je trouve vraiment. L'idée intéressante. Alors, on va peut-être reprendre peut-être des questions, mais malheureusement, on n'a pas bien respecté la consigne, c'est-à-dire que la collègue qui devait. C'est parfait. Donc, est-ce que.
Ce que nous demande de faire, c'est-à-dire l'ami critique, avec tout ce que vous venez de dire, où des questions émergent à chaque phrase, puisque vous êtes en grande interrogation et en attente, même si vous arrivez au bout de quelque chose, et en partie aussi toutes ces questions qui ont émergé, et de la part des chefs d'établissement, et aussi de la vie outil. Alors j'ai une quantité de questions. Alors peut-être, est-ce que je peux vous dire ce que
oui.
j'ai
écrit? Ah oui, ah oui.
Voilà, on a ça et ça,
ça m'intéressera.
Alors, du point de vue méthodologique, je me suis servi de votre fiche d'accueil, hein, avec les différentes questions sur le descriptif des ateliers. Je commence par l'intérêt, les limites d'une coopération avec la recherche, comment la construire, comment l'exploiter. Ce que je retiens, c'est que, d'une manière générale, vous avez dit que l'évaluation était un objet protéiforme, donc avec une production de documents différents. Comment produire un écrit commun partagé par les différents acteurs? Dans le cadre du suivi des chercheurs, comment rendre leur évaluation lisible? Comment transférer un écrit de recherche susceptible d'être entendu par tous? Étant donné que les indicateurs propres à la spécificité de l'expérimentation n'est pas forcément rendu dans les écrits de chercheurs. Vous avez même dit à un moment donné que certains enseignants niaient parfois cet écrit et que paradoxalement, cet écrit participait quand même à les conforter dans la justesse de leur action. Au niveau de la bascule entre innovation et expérimentation, comment prendre en compte toutes les multiples questions qui se posent pour arriver à partager un bilan final? Et bon, vous avez parlé de dérogation, je ne sais pas si je dois dire que vous vous basez sur cette dérogation pour qualifier l'expérimentation, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Ensuite, sur le changement de positionnement des différents acteurs impliqués, vous avez constaté que tout le monde a évolué hein, au niveau des positionnements. Au niveau de l'établissement, M. Jacques Talisman a dit que ce qu'il avait constaté, c'est qu'au moment partie d'une innovation qui n'était pas un des objectifs prioritaires de l'établissement, on était arrivé à un projet qui intéressait davantage l'ensemble de l'établissement. Et le problème, c'était de savoir comment on allait conceptualiser des objets communs en trino-XP dans le cadre de ce projet. Que les professeurs ont évolué, mais là je n'ai pas tellement suivi, s'ils avaient évolué parce qu'ils avaient sorti la philosophie de la classe, de l'horaire traditionnel avec ses rencontres de Sophie pour revenir ensuite à en faire un objet de motivation, de recherche, etc. Et vous avez travaillé sur la question, c'est de savoir comment on pouvait faire émerger ou exploiter des effets inédits qui travaillent et en boule de neige pour ce que cristalliser après. Comment est-ce qu'on arrive à cerner tout ça? Une autre question, c'était de s'interroger sur ce qu'était l'évaluation partagée. Est-ce qu'il y a eu véritablement un partage de vision ou bien est-ce que les différentes strates du système sont restées hermétiques? Par exemple, vous avez parlé la question de la construction de cette évaluation partagée, comment par exemple l'IAIPR qui reste sur une position de disciplinaire a-t-il pris en compte quand même tout ce qui sortait de son territoire? Voilà. Quant au devenir de cette expérimentation et sa pérennisation dans l'établissement, monsieur a dit que peut-être il fallait chercher à partir des effets positifs. J'ai pas mis en ordre tout ça parce que ça sortait de tous les côtés. C'est très difficile. C'est une innovation, mais ça sort quand même de nos habitudes de faire un rapport d'atelier parce qu'il a fallu uniquement les questions implicites et explicites.
C'est
ce que j'avais compris de la part de François. J'ai du mal.
Voilà, peut-être que...
J'ai beaucoup de mal,
voilà.
On n'a pas
du temps. Hein. Mais ça, c'est une étape intermédiaire. C'est important que vous nous l'ayez restitué pour savoir ce que collectivement...
C'est
peut-être trop. Donc, voilà. Donc, mais on a encore... 5-6 minutes.
C'est
tout à l'heure.
Est-ce que les collègues qui sont là ont compris quelque chose?
En tout cas, c'est vrai que pour moi,
je veux bien me faire remplacer.
Voilà, sur le, la question de. Il y a la question de la recherche. Non, peut-être resserrer sur trois, quatre points forts. Donc voilà, qu'est-ce qu'on retient comme point fort? Alors, moi, il me semble qu'il y en a un que vous avez cité, qui est effectivement le rapport de la recherche, quel qu'il soit. Parce que là, on ne peut pas généraliser à partir de ce rapport-là, dans la mesure où les autres rapports de recherche sont extrêmement différents et très respectueux des expérimentations. Hein. Donc, c'est le seul que l'on ait qui n'est pas intégré l'expérimentation. C'est une étude de cas. Donc, on ne peut pas généraliser, malheureusement, à partir... Enfin, on ne peut pas tout généraliser à partir d'une étude de cas. Mmh. Mais moi, ce que je retiendrai sur la recherche, c'est ce que Martine a dit, c'est l'importance de la réception, le travail de la réception d'un rapport de recherche auprès des différents acteurs, que ce soit l'équipe, alors bien sûr en premier lieu l'équipe, mais également les corps d'inspection, l'établissement et éventuellement au-delà. Donc ça, c'est paraître un point fort. Est-ce que, compte tenu des questions posées, vous voulez en retenir?
La question serait que peut-être que
la question dans une des questions dans le
voilà.
Oui,
parce que c'est peut-être des questions d'ordre général qu'il faut.
Oui.
Non, parce que c'était un bon miroir de ce qui s'est passé. La question pour la recherche, c'est peut-être que comment on transfère un rapport de recherche à l'ensemble des acteurs d'une expérimentation et au-delà, parce que c'est quand même un écrit spécifique. Oui, il y a deux questions avant, oui.
Est-ce qu'il y a un apport, est-ce qu'il y a une réaction, est-ce qu'il y a une réaction?
Oui.
Est-ce que voilà. C'est une mémoire?
Oui, donc, place de la recherche, je reprends, oui, place de la recherche dans l'expérimentation. Est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que c'est un apport? Une évaluation, une critique?
Il y a quand même des points dans cette recherche qui sont le rapport du professeur à l'élève dans le cadre de la philosophie. Comment est-ce qu'on aurait pu discuter de ça avec les enseignants?
Et quand vous posez la question, vous dites que les ressources
sont importantes. Et c'est la peine à chercher par rapport à un ami critique.
Voilà, c'est presque dans les ressources.
Oui.
Quel impact la philosophie sur les écoles? Aucun. Là, quand même, ça a été un pavé dans la mare. Ce rapport de recherche, ça a même été violent. Celui-là.
Oui, celui-là.
Il a été violent. Voilà, donc, quelle réception?
Et pourtant, on l'a modalisé une fois. Il a été modalisé parce que ça partait très fort.
Ça ne veut pas dire que c'était négatif. Ouais, c'est
ça. Ah non.
Ça, puisque voilà, la conclusion, c'est que ça avait conforté. Est-ce qu'il y a une autre question qui vous paraît très forte? Là, on a une forte, une deuxième, un point très fort qui a été dit.
C'est peut-être plus pour l'autre rapporteur. C'est-à-dire, ce que vous avez exprimé tout à l'heure, le chemin qu'on a encore à parcourir pour effectivement accepter un ami critique. Et la peur que vous avez exprimée par rapport au regard de l'institution, par rapport au regard de l'expert, que l'on retrouve à tous les niveaux. Mmh. Vous l'avez exprimé à votre niveau, c'est-à-dire le regard de l'institution nationale par rapport à ce que vous avez envie de valoriser. C'est valable pour l'établissement par rapport au regard de l'institution du rectorat,
et c'est valable dans l'établissement, pour les enseignants, par rapport au regard extérieur du chef d'établissement. Là, il y a un chemin énorme à parcourir pour qu'on soit effectivement dans des phases d'expérimentation, d'échange, et justement de progrès, parce que c'est bien ça.
L'évaluation dit quelque chose des évaluateurs, donc voilà. Ça dit quelque chose de nous, ça c'est sûr.
Alors, comment on peut l'exprimer ça?
Je ne sais pas de vous comment on peut dire, mais je crois que le fond du problème, c'est souvent le frein justement à bien des choses.
C'est un peu une déontologie de poser un regard positif. Je crois que c'est ça. Il y a de la déontologie. Et alors moi, ce que j'avais traduit par regardons la même chose. Regardons.
C'est l'objet commun, la définition de l'objet commun.
Un objet commun d'observation.
Ça, c'est important.
Voilà. C'est comme ça, peut-être qu'on avance.
Mais à la limite, quelle que soit la bonne volonté, dans un premier temps, l'expert aura sa casquette d'expert. On a fait allusion à ça hier, à un moment donné. C'est-à-dire que l'ami critique ne peut pas être l'expert. Parce qu'il va être perçu comme ça.
Et... Mais ça, c'est pas gênant si on a un objet commun.
Voilà.
Mais la crainte, sur quoi porte-t-elle? Est-ce que c'est pas la comparaison d'une procédure normative? Est-ce que c'est pas c'est sur la procédure qu'elle porte? C'est ce que je me dis d'être autonome, c'est quelque chose d'original. Obligatoirement, c'est non conforme. Or, la représentation que l'on a, c'est celle de rester en conformité. Donc, l'obstacle, c'est ça. C'est la difficulté qu'on a à sortir de la conformité par crainte du regard extérieur.
C'est-à-dire que le regard extérieur, quel qu'il soit,
fasse un sacré chemin pour avoir une démarche analytique et qui ne soit pas une démarche de jugement.
Voilà. Et c'est ce que vous exprimez tout à l'heure sur le mot encouragement.
Et voilà, savoir tirer le positif de ce qui se fait pour pouvoir exprimer uniquement techniquement les points de négatifs ou les difficultés qu'on vous dit. C'est un système fracteur. Si vous prenez l'élève par rapport au professeur, c'est pareil.
C'est l'élève aussi
a peur de ne pas être conforme à l'élève que vous trouvez, bien sûr, je connais les tricks du prof, c'est bon. Donc c'est ça. Donc c'est le mood.
C'est dans l'innovation,
c'est un peu.
C'est
dans l'innovation, c'est un peu. C'est pas un vrai risque. On a l'impression que c'est une certitude. Il n'y a pas derrière. On sait que la personne à laquelle elle va être confrontée, on a la certitude que la personne à laquelle elle va être confrontée à vous ou à un autre, l'institution va se présenter. On n'est pas sur le même discours.
Si je peux donner l'exemple, avec l'exemple, est-ce qu'on parlait de pérennisation?
Oui.
Un lycée qui a mis dans un de ses actes du contrat d'objectif une innovation qui était terminée l'année précédente et qui est rentrée dans le contrat d'objectif. Ils ont contractualisé sur l'innovation qui venait de se terminer, notamment c'était l'égalité des chances dans l'efficacité scientifique.
Bien. Alors nous concluons là-dessus.